Voilà, j'accueille aujourd'hui donc quelqu'un qui travaille et qui réfléchit autour des plateformes numériques et notre dépendance à ces plateformes. Alors c'est vrai quand je vous dis ça comme ça, vous dites on dépend de qui, de quoi, mais quand vous réfléchissez vraiment, on va donner des noms et ça vous semblera tellement évident que la question se pose plus de savoir comment on y entre, mais comment, pourquoi on y reste et qu'est-ce qu'on fait de nous. C'est ça un peu le thème avec Joachim Lebrun. Bonjour Joachim Lebrun.
Bonjour.
Alors donc vous êtes, on peut dire, dans le monde de l'économie sociale.
L'économie solidaire, oui, tout à fait.
L'économie solidaire. Et donc la dépendance des plateformes numériques, ces plateformes sont souvent non solidaires, on va dire, sont des entreprises privées qui vivent, alors, je ne sais pas si on peut dire grassement, mais elles ont des fortunes quand même. Qu'elles utilisent après d'une manière ou d'une autre. Elles ont des actionnaires et nous, là-dedans, on est, alors, je ne vais pas dire la victime, parce qu'en même temps, on est consentant d'après ce qu'on signe, on est d'accord pour, mais il y a des dérives auxquelles on commence à évoquer et la question est, dans 20 ans, qu'est-ce qu'on sera par rapport à ces plateformes ? C'est un peu ça l'idée.
Oui, très bien. Alors, il y a beaucoup d'idées là dans cette petite intro. Peut-être commencer par, quand on dit les plateformes, en fait, il y a énormément de plateformes, bien plus que les principales qu'on connaît. Et derrière ce monde de plateformes, il y a un peu cette image de l'Eldorado. La plateforme, c'est la nouvelle manière d'entreprendre. Si on n'entreprend pas en plateforme, on ne va pas réussir, quoi. Et à l'inverse, je pense qu'il y a beaucoup qui pensent que le milieu de la plateforme est un milieu très lucratif. Alors sur ce premier point, quand on dit que y a des gens qui s'enrichissent sur notre dos, c'est certainement le cas, il y a des actionnaires, effectivement. Mais je pense qu'il y a quand même un point très important à mettre en avant, c'est qu'il y a très très peu de plateformes qui ont réussi à atteindre un équilibre économique. Ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Il y a quand même beaucoup de plateformes qui vivent à coup de levées de fonds, donc qui font des levées de fonds extrêmement importantes, qui investissent énormément, donc on est sur des enjeux d'investissement, et qui ont un enjeu de rentabilité sur de nombreuses années, le temps que le marché s'installe. Voilà. Donc pour le dire autrement, si on regarde les choses avec un filtre plutôt économique, on est au début. On est au début, donc économiquement parlant, c'est pas vraiment là qu'on peut critiquer aujourd'hui. Ce qu'on peut quand même observer, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi, donc il y a beaucoup de gens qui croient au fait que derrière le monde des plateformes, à un moment donné, on atteindra une certaine rentabilité et du coup des actionnaires vont pouvoir s'enrichir à un moment donné. Mais non seulement c'est pas le cas pour les grosses plateformes, mais aussi, et je pense que c'est très très important de s'interpeller mutuellement, tous les autres qui se développent et qui n'ont pas forcément la possibilité de faire des grosses levées de fonds et des gros investissements, on est très très loin, pour un certain nombre de plateformes, de trouver une rentabilité économique. Ça, je pense que c'est très important de le citer. Donc ça, c'est sur le volet financier. Attention, on ne sait pas tout ce qui se passe derrière les plateformes, mais ce n'est pas forcément l'Eldorado, il faut se le dire. Ensuite, moi, quand on me pose la question de c'est quoi une plateforme, j'aime bien dire bah, il y a une version officielle, et puis ensuite, quand on creuse un peu, il y a une autre manière de présenter les choses. La version officielle, et je pense qu'effectivement on peut en reconnaître beaucoup derrière ça, une plateforme c'est un outil d'intermédiation. Donc c'est un outil, c'est une entreprise, c'est tout un tas d'algorithmes, c'est tout un tas de personnes et de services qui font le lien entre des personnes qui vendent et des personnes qui achètent. Si on s'arrête là, c'est une version, on pourrait le dire, plutôt servicielle, c'est-à-dire on a le sentiment que ça rend service. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que pour beaucoup de plateformes, il y a eu une grosse évolution, très très grosse évolution de clientèle et de demande au moment de la période de la Covid-19. Ça montre quand même qu'effectivement, l'outil en tant que tel peut rendre service. L'autre présentation, qui est un peu moins officielle, c'est de dire que finalement, une plateforme, c'est aussi une boîte noire. C'est-à-dire que on a une vitrine qui nous est présentée, on a un service dont on connaît les fonctions principales, on sait pourquoi on vient. On veut commander un repas, on veut se faire livrer des produits. Voilà. Bon, ça, c'est ce qui nous est accessible. Tout ce qu'il y a derrière, c'est totalement opaque.
Alors justement, cette opacité, elle est mise en question parfois par l'Union européenne.
Exactement.
Il y a des acteurs qui commencent à s'interroger, notamment étatiques, qui se disent on est complètement dépendant de ces plateformes internationales. Je parle des plus grandes. Est-ce qu'en région, il y a, en Haute-France, il y a des plateformes plus restreintes, on va dire, et qui seraient plus vertueuses ?
Alors, exactement. Et ça, c'est intéressant de faire le lien entre les deux. Qu'est-ce qui fait que c'est totalement opaque ? C'est que il est très difficile d'avoir la main sur les plateformes. C'est des acteurs économiques qui n'ont pas de périmètre géographique en tant que tel, et donc qui peuvent assez facilement, même si ça commence à montrer un certain nombre de failles, mais qui peuvent assez facilement jouer sur les règles des différents pays, notamment en ce qui concerne les conditions salariales, qui est un vrai problème en ce moment. Effectivement, l'Union européenne essaye d'y travailler. Alors qu'à l'inverse, je vous disais tout à l'heure, il y a tout un tas de plateformes avec des modèles très très différents. Les modèles que nous, on soutient, donc c'est les plateformes de l'économie sociale et solidaire, ces plateformes-là, à 100%, sont des plateformes dont le siège est en France. Ça, c'est déjà important. Avec une gouvernance partagée, c'est-à-dire que les consommateurs, les usagers, font ou peuvent faire partie de la gouvernance. Avec des enjeux de transparence sur l'usage des données, des enjeux de transparence sur les flux financiers, avec une obligation quelque part de rendre compte aux utilisateurs de la plateforme de comment la plateforme fonctionne. Et ça, ça fait une énorme différence. En région de France, on est aujourd'hui sur un recensement, et c'est un premier recensement, d'une trentaine de plateformes, donc d'entreprises ou d'associations qui utilisent des outils de plateforme pour développer leur activité et qui sont sur ce modèle-là, c'est-à-dire qu'ils vont respecter des règles très très strictes de transparence, de démocratie, de recherche, effectivement, de limiter les impacts écologiques autant que possible, parce que c'est aussi des outils qui consomment énormément, qui sont très énergivores. Donc voilà, donc on a la chance, alors il y a la chance, mais après il y a un contre-coup de ça, on a la chance d'avoir des modèles de plateforme alternatifs, vertueux, accessibles, citoyens, qui émanent des projets de citoyens et de territoires. Ça, c'est très très bien. Le pendant de ça, c'est que on le disait tout à l'heure, c'est pas les plateformes auxquelles on va le plus vite penser. Parce qu'elles n'ont pas pignon sur rue. Et pourquoi elles n'ont pas pignon sur rue? C'est parce qu'elles, elles fonctionnent à coût constant. C'est-à-dire qu'elles se développent au fur et à mesure du développement de leur activité. Ce qui n'est pas le cas, on se le rappelle, des grosses plateformes qui vont faire des très très grosses levées de fonds, c'est-à-dire qu'elles vont accepter de ne pas être rentables dès le début, et petit à petit, elles vont chercher à retrouver de la rentabilité. Nos acteurs, à nous, ceux qui développent les plateformes alternatives, dès le début, ils ont très peu d'investissements, et donc ils vont fonctionner, je vais pas dire avec des bouts de ficelle, mais en tout cas avec des modèles beaucoup plus modestes. Quoi. Ouais. Et ça, ça a un impact au moins, sur deux volets, sur le volet de l'infrastructure numérique, et il y a des solutions là-dessus, et sur le volet de marketing. Sur le marketing, si je vous cite un certain nombre de plateformes avec lesquelles on travaille, vous n'allez pas en connaître beaucoup, pour une raison très simple, c'est qu'elles sont beaucoup moins visibles que les grosses plateformes qui ont un budget de communication qui est juste énorme. Et bien entendu, des plateformes de taille beaucoup plus modeste n'ont pas ces volumétries en termes de budget. Et c'est pareil sur l'infrastructure numérique. Qu'est-ce qui coûte le plus cher au démarrage quand on lance une activité de plateforme? C'est le logiciel. Quand je dis au démarrage, c'est que au démarrage. Parce qu'ensuite, il faut continuer à investir. Et c'est vraiment une part du budget qui est assez considérable. Alors, vous doutez bien, je finis juste là-dessus, oui, vous doutez bien que pour des acteurs de taille modeste, qui défendent des valeurs de l'économie sociale et solidaire, les budgets disponibles à investir dans ces logiciels sont beaucoup plus modestes. On a même, et ça c'est intéressant de le noter, beaucoup de ces plateformes qui sont faites, j'ai envie de dire comme ça, à la maison, quoi. Elles sont faites en no-code, elles sont faites avec de la bidouille, voilà. Bon, voilà. Et donc très vite, on est sur des modèles de plateformes qui sont très très différentes de celles qu'on connaît les uns les autres.
Alors justement, celles qu'on connaît parfois, leur implantation est favorisée par les autorités publiques, on va dire, et les financements publics. Il y a dans la région ce qu'on appelle REF3, qui est un dispositif qui vient en aide à des structures qui veulent développer des projets relativement vertueux dans les nouvelles technologies, dans tout ce qui est tendance, peut-être où on pourrait intégrer ces plateformes régionales dans ce qu'elles ont de plus intéressant pour le public. Est-ce qu'éventuellement, elles sont soutenues pour ça, dans la région?
C'est intéressant de citer REF3, parce qu'effectivement, dans REF3, il y a plein de dimensions qui font écho à ce qu'essayent de cocher les plateformes. Notamment, il y a un enjeu derrière REF3, mais aussi derrière les plateformes, de d'intégrer dans le modèle la sensibilisation et l'accompagnement à la transition des publics, voilà, ce qui est un pilier très très important dans REV3. Et sur les plateformes, c'est aussi exactement le cas. Il y a un enjeu de consommation responsable très très fort derrière les plateformes. Aujourd'hui, sur la dynamique REV3, effectivement, les plateformes sont citées. Alors plutôt, j'ai envie de dire, à un niveau professionnel, donc là, ce qui est visé, la place qui est donnée par REV3 sur les plateformes, c'est de faciliter l'échange de matériaux et de ressources à l'échelle régionale. On est plutôt là-dessus, on n'est pas encore sur une interaction de type B2C entre des professionnels et des citoyens, mais c'est un premier élan.
Donc Joachim Lebrun, vous êtes directeur de l'APES, hein, qui est donc une structure où l'aspect social, économique fonctionne ensemble. Mmh. Est-ce que votre site web, qui est APES, alors hdf.org, hein, apes-hdf.org, pourrait reprendre l'inventaire de ces nouvelles plateformes de la région pour déjà les faire connaître et peut-être les aider à faire du lien ensemble?
Alors effectivement, je disais tout à l'heure, il y a des solutions par rapport au déséquilibre, quelque part, qu'il y a entre les plateformes que tout le monde connaît et celles qui ont une réelle utilité sociale, territoriale et écologique. Parmi les solutions, par rapport à ce premier frein qui est quand même très important, qui est l'absence d'une communication ou d'un service marketing dédié dans chacune des plateformes, grâce au soutien de l'Europe, du Conseil régional et de l'État, on a pu développer un site internet qui s'appelle Nos Déclics. Et Nos Déclics, c'est effectivement à la fois un référencement, mais aussi un premier outil d'interface entre les différentes plateformes et les consommateurs en région. L'idée, elle est la suivante. Les plateformes que l'on connaît aujourd'hui, les uns les autres, sont sur des périmètres très très larges, sont sur des services assez étendus. Les plateformes que nous on référence sont parfois sur des segments un peu plus petits ou sur des domaines territoriaux. Elles vont pas forcément couvrir toute la région. Donc pour les aider à être visibles et référencés, chaque citoyen peut venir sur Nos Déclics et regarder, en fonction de son territoire et du champ thématique recherché, quelle est la solution la plus appropriée.
J'imagine que chaque plateforme a son propre projet, son propre public, son champ d'activité. Est-ce que, d'une manière générale, elle souhaite rester dans l'économie sociale et solidaire, par exemple, ou est-ce qu'elle souhaite être reprise par de plus grosses?
C'est un sujet, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai la chance au quotidien de bosser avec un certain nombre d'entrepreneurs, d'entrepreneuses qui sont de l'économie sociale et solidaire et qui revendiquent que les outils de plateforme doivent être accessibles aux citoyens et être pensés dans des modèles d'économie sociale et solidaire. C'est pas le cas de tous. Ce que l'on peut voir aussi, il y a une forme d'épuisement, et ça peut tout à fait se comprendre, quoi. Porter un projet de plateforme, soit c'est une initiative individuelle, soit collective, mais c'est quand même très fatigant, quoi, d'aller chercher des nouveaux usagers avec peu de moyens, de devoir gérer les aspects techniques. Voilà, c'est vrai que certains, de temps en temps, pourraient être tentés d'avoir des alliances avec des plateformes un peu plus grosses, voilà. Néanmoins, et moi c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de garder de l'énergie et d'en apporter, il y a de plus en plus, et ça on le voit, hein, je ne vais pas dire tous les jours, mais pas loin, de personnes qui ont envie de développer des nouveaux projets, et ça c'est vraiment chouette, et qui ont envie de le faire parce que ça a du sens en utilisant des outils de plateforme. Et là, nous, ce qu'on essaye de faire, justement, c'est d'arriver au bon moment pour leur dire, et du coup, on répond à la deuxième problématique qu'on a citée tout à l'heure, ce qui coûte très cher, ce qui est très compliqué dans vos projets de plateforme, c'est l'infrastructure, c'est le code, c'est l'outil numérique, quoi. Encore une fois, grâce au projet européen qu'on a apporté, on a développé deux solutions de plateforme qui sont des solutions de plateforme qui sont partageables. Et c'est, pour nous, c'est ça l'enjeu. C'est vraiment l'une des manières de réussir le développement des plateformes dites en économie sociale et solidaire. C'est que plutôt que chacun puisse, dans son coin, comme vous le disiez à l'instant, développer sa plateforme sur son sujet, sur son territoire, l'idée, c'est que ça puisse se faire, mais pas à chaque fois en redéveloppant de toutes pièces un logiciel. Le logiciel en soi, il peut être totalement partagé. Il peut y avoir des projets de plateforme avec le même logiciel aux quatre coins de la France. Et nous, c'est ce qu'on a voulu développer. On a développé deux outils de plateforme. Un premier qui permet l'échange de biens et services, Voilà, donc il y a beaucoup d'acteurs qui développent des plateformes, c'est un peu comme Le Bon Coin, si vous voulez, qui développent ce type de plateforme, notamment dans des versions alternatives. Et donc là, l'idée, on dit aux porteurs de projets, plutôt que développer votre plateforme de toute pièce, utilisez ce code source principal, faites des dernières finitions pour personnaliser un peu votre projet, et participez au développement, non pas de votre propre logiciel, mais de cet outil en commun. À chaque fois que vous allez apporter une amélioration, ça va permettre à chacun d'en bénéficier, et c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir résister et avancer sur le domaine des plateformes.
Est-ce qu'on peut imaginer que cette mutualisation des moyens, des idées, pourrait faire que des pépites deviennent des licornes?
Alors les licornes, c'est un autre sujet. Mais effectivement, c'est l'idée. C'est en tout cas, il y a un double enjeu. Il y a à la fois l'idée que sur la même ressource, il peut y avoir des acteurs qui ont envie d'entreprendre à l'échelle de leur quartier. Il n'y a pas de raison qu'en voulant entreprendre à l'échelle de son quartier, on n'ait pas un outil performant, efficace. Et sur le même usage du même logiciel, il peut y avoir effectivement des acteurs qui ont plutôt envie d'aller chercher un modèle économique avec une certaine rentabilité, avec des emplois derrière. Ça, c'est pas un souci. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on puisse regrouper des énergies différentes qui vont, en communiquant, en coopérant, prendre soin d'une même ressource. Ensuite, les utilités, chacun retrouve finalement une forme d'entrepreneuriat avec un projet propre. Voilà. Mais d'abord, on se met d'accord sur le fait que la ressource, elle est partagée. Ensuite, que sur la même ressource, il y ait des licornes qui puissent l'utiliser, la développer, mais que cette même ressource, elle est utilisable par des acteurs de quartier, des initiatives locales. C'est vraiment ça qu'on vise, quoi.
Est-ce que certaines de ces licornes pourraient être des entreprises vertueuses d'une certaine manière et coopératives, pourquoi pas?
Oui, alors du coup, là, si on quitte la question du logiciel partagé et qu'on se pose une question que beaucoup de gens se posent, notamment avec les propos que j'ai eus juste avant, c'est est-ce que finalement, est-ce qu'on peut en vivre? C'est une question. Est-ce qu'on peut créer de l'emploi? C'est une autre question. Et quels sont les... C'est une question qu'on me pose souvent. Quels sont les métiers qui sont en train de se développer sur ces outils de plateforme? Pareil, comme quoi tout est lié. On voit aujourd'hui que dans les projets portés par des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des licornes ou d'autres, il y a effectivement des projets très vertueux dans lesquels on a un alignement entre la manière dont on considère l'outil numérique, dont on considère le client, le consommateur, et dont on considère l'interne, à savoir les ressources humaines, les salariés, voilà. Cet alignement, on le retrouve très très fortement dans les projets d'économie sociale et solidaire. Je ne vais pas forcément les citer, mais on a certaines plateformes où il y a une dizaine, une quinzaine de salariés, et ça vit correctement, et ça c'est vachement bien. Et c'est aussi pour ça qu'il faut valoriser ces plateformes-là, c'est parce que certes c'est des modèles qui sont moins connus, mais qui en termes de plus-value, en tout cas en termes d'impact, créent des impacts positifs, en tout cas au regard des autres plateformes qui sont sur ces aspects-là totalement critiques et qui n'arrivent pas à trouver de solutions en dehors de solutions qui sont imposées par des interventions notamment de l'Union européenne. Mais notamment, on le voit aujourd'hui avec les différentes problématiques qu'il y a autour des livreurs à vélo, qui est une véritable catastrophe, hein. Je pense que tout le monde suit ça, avec des livreurs qui font plus de 60 heures par semaine, qui sont payés au lance-pierre, qui ont des maladies professionnelles qui se développent et des maladies mentales qui font que se développer. Deux modèles différents. Un modèle où ça se développe très très vite avec beaucoup d'investissements, mais les conditions de travail sont vraiment pas terribles. De l'autre côté, des modèles qui se développent, je le disais tout à l'heure, plutôt dans une logique partagée et sur des petites volumétries, donc des petites plateformes, des petits projets avec des petites équipes, mais où dès le début, on est sur des conditions de travail qui sont favorables, on est sur un respect d'environnement tout de suite, et non pas quand on atteint un certain seuil de rentabilité.
Donc pour que ce sont quand même des entreprises, même sous forme associative, mutuelle ou...
Il y a de tout, il y a des entreprises, il y a certaines sociétés coopératives,
effectivement. Donc au départ, c'est quand même un cœur d'entreprise avec un fonctionnement d'entreprise, soumise à des règles, j'imagine, les impôts, ce qui est TVA et autres. Donc il y a cet aspect un peu juridique et tout ce qui est de l'ordre de l'administratif. Est-ce que justement, sur ce point-là déjà, il pourrait y avoir une mise en commun de personnel, par exemple, sur le règlement des méthodologies pour les facturations ou autres?
C'est une bonne question. Alors, justement, on parlait des licornes tout à l'heure. Il y a tout un tas d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui coopèrent sur tout un tas de fonctions, effectivement sur une veille juridique, parfois sur des métiers. Et ça, ça dépend un peu de quelle est leur échelle d'activité. Pour les plateformes qui sont au niveau national, un bon nombre d'entre elles se regroupent, essayent d'avoir un plaidoyer commun, un argumentaire commun, et vont partager un certain nombre de fonctions. Voilà. Ça, c'est hyper important. Et notamment, qui est un gros sujet, elles vont essayer de s'entraider sur la levée de fonds, mais des levées de fonds vertueuses, je vais y revenir tout à l'heure, elles vont essayer de s'entraider sur la sécurisation de leur modèle économique. Mais au niveau régional, c'est pareil. On a aussi, on le voit nous en région Hauts-de-France, les acteurs qui développent des plateformes se parlent et essayent autant que possible de mutualiser un certain nombre de choses.
Donc il existe, des, pour le coup, des plateformes où on peut faire appel à, au financement. Hein, et quand on a un certain nombre de financements, on peut lancer son entreprise et peut-être attribuer aux personnes qui ont aidé quelques avantages. Ça existe aussi. Est-ce que vous, dans l'ensemble de votre secteur, vous pensez que cet appel à investissement, d'une certaine manière, peut être aussi mis en commun?
Ça pourrait. En tout cas, pour revenir sur la question du financement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est quand même très compliqué. C'est très, très compliqué. Non seulement parce que c'est des outils très coûteux, mais qui, encore une fois, on le voit pour les grosses plateformes comme pour les autres, l'atteinte de la rentabilité, c'est pas pour demain. On est vraiment sur un investissement où il faut être patient. Et donc, effectivement, il faut des investisseurs. Moi, ce que je vois dans les discussions avec les uns ou les autres, on a des plateformes qui ont des modèles où elles sont trop petites, quelque part, pour avoir suffisamment de moyens humains, pour aller faire du crowdfunding, pour aller voir des investisseurs privés potentiels, voilà. Et de l'autre côté, les plateformes toujours de l'économie sociale et solidaire qui ont des modèles un peu plus gros, ont pas forcément des voies beaucoup plus ouvertes, notamment, à certains moments, parce que leur statut, je pense à des sociétés coopératives, des SCOP, des SIC par exemple, qui sont des statuts qui permettent des fonctionnements très vertueux, encadrés, protégés, des modèles coopératifs. C'est des statuts où les financeurs s'en méfient énormément. Je pense notamment aux acteurs bancaires qui vont avoir beaucoup de mal à les acteurs bancaires, mais aussi à d'autres investisseurs privés, qui vont avoir du mal à prêter de l'argent à ces acteurs-là, parce que ben, la responsabilité, elle est collective et pas individuelle. Voilà. Bon, voilà, c'est le genre de petite problématique, et c'est pas la seule, il y en a beaucoup, qui font que si chaque plateforme, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, doit organiser sa propre stratégie de levée de fonds avec des canaux différents et en plus en intégrant à l'intérieur la sensibilisation des interlocuteurs, le fait de devoir rassurer sur le fait que ça peut être des modèles pérennes, sachant qu'encore une fois, les grosses plateformes renvoient pas forcément de très très bons messages. Tout ça fait que c'est assez compliqué. Sur le fait de pouvoir mutualiser ces fonctions, c'est pas si simple parce que, encore une fois, aujourd'hui, on est sur des entreprises, je parle des plus grosses, hein, on est sur des entreprises qui développent des plateformes, voilà, donc on est sur des sujets différents, on est sur des responsabilités différentes. S'entraider sur la levée de fonds, c'est possible. Mutualiser la levée de fonds, ça me semble un peu plus compliqué.
Alors, en termes de marché, de produits, de gamme de produits ou de production hein, qu'on veut vendre, les choses vont très vite. Quand on pense une plateforme autour d'un projet, il faut être très réactif pour voir les évolutions du marché, des attentes des consommateurs, etc. Je pense à des entreprises, l'une complètement, on va dire, patronale, la Redoute, par exemple, et puis une autre qui est dans le domaine de l'économie sociale, la CAMIF, par exemple. Elles n'ont pas pu réussir à rester dans le marché, alors qu'elles avaient de l'expérience, des équipes, de la communication et du public. Hein. Donc, quelque part, qu'est-ce qui fait qu'un projet qui naît puisse se développer sur du long terme? Comment on peut garantir, enfin garantir si on veut, mais comment on peut être astucieux pour rester dans le coup, on va dire?
Alors, la question du long terme sur le sujet des plateformes, je pense que c'est un vrai sujet. Moi, ce que je remarque, c'est que c'est quand même, ça évolue très vite, très très vite, à la fois du côté des plateformes que tout le monde connaît, j'aime bien dire ça, mais aussi les plateformes alternatives, ça bouge vraiment vite. Savoir ce qui lancera des plateformes dans 10 ou 15 ans, j'en ai aucune idée. Moi, ce que je vois, par exemple, c'est que ces dernières années, à la fois, il y a de nouveaux projets, de nouveaux investisseurs. Parfois, on entend des sommes folles pour développer des nouveaux logiciels de plateforme. C'est juste impressionnant. Effectivement, c'est des choses qu'on constate, voilà, qu'on entend. Certaines plateformes viennent sur des sujets déjà bien développé, donc il y a une concurrence qui va se développer très très fortement. Mais ce qu'on voit aussi, et peut-être qu'on entend moins, c'est qu'il y a aussi des plateformes qui se sont totalement cassées la figure, malgré des gros investissements. Donc j'ai envie de dire, après on revient sur des modèles d'entreprise, donc chacun fait sa propre étude, ses propres pronostics. Voilà. Moi ce que je dis quand même, en dehors de ce qui dépend du marché, des entrepreneurs, de comment ils vont ressentir les choses, est-ce qu'ils vont savoir bien se positionner. Il y a quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que je suis convaincu que il y a certains coûts qui vont augmenter, ça c'est certain, dans le milieu des plateformes. Il y en a d'autres qui vont baisser, mais globalement, ça va coûter toujours encore un peu plus cher de développer des plateformes à l'avenir. Et aussi, je pense que dans 10 ou 15 ans, les charges seront plus développées pour une raison toute simple, c'est que je pense que les passe-droits, je vais le dire comme ça, réglementaires, les charges sociales, les normes qui ne sont pas respectées, le respect du code du travail, etc. Ça, à terme, fini. Hein. Ça va peut-être durer encore un certain nombre de temps. Voilà. Et je suis convaincu, vu l'impact à la fois économique sur le milieu du travail, mais aussi ce que ça représente en termes d'image, que petit à petit, les autorités, à l'échelle... Alors, ça prend du temps, on est d'accord. À l'échelle locale, régionale, nationale, européenne, vont tout doucement réencadrer les choses. Je vous donne un exemple, et on voit comme quoi ça évolue vite. Il y a encore quelques années, il n'y avait aucune réglementation pour les plateformes qui mettaient à disposition des trottinettes, des vélos. Et du coup, c'était quand même une catastrophe à certains endroits, sur accidents, genre de choses. On voit qu'un certain nombre de collectivités se sont mises en mouvement pour pouvoir retrouver une marge de manœuvre et pouvoir réencadrer les choses au niveau de ces plateformes.
Alors, c'est vrai qu'il y a
un certain nombre d'entre elles, ça c'est intéressant, mais un certain nombre d'entre elles, justement en se remettant dans les fourches codines des règlements et du rapport avec les collectivités, ont décidé de partir de ces territoires. Certains ont vu leur modèle économique vaciller. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est des choses qui ne sont pas aujourd'hui totalement observables pour cette plateforme. Mais je pense qu'il y a une partie d'entre elles qui vont avoir du mal à la fois continuer à se développer comme ça de manière presque incessante et de l'autre côté, se mettre dans les clous de toutes les obligations qui sont des obligations pour toutes les entreprises qui sont aussi localement en développement, mais qui vont aussi demain devenir des obligations qui seront de plus en plus difficiles à contourner.
Alors bien sûr, il y a ces obligations pour rester dans un cadre et une certaine forme d'équité entre les entreprises.
Hein. Bien sûr.
Et puis, on va dire, par rapport au public, des garanties de sérieux, d'efficacité et de non-dangerosité, qui est quand même la base. Il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est... la confiance du public, qu'est-ce qui fait que le public soit d'abord séduit et après continue une certaine fidélité à certaines plateformes? Est-ce que le bouche-à-oreille fonctionne? Est-ce que la communication qui est faite sur les réseaux sociaux, ça peut aider aussi ces plateformes à être mises en avant, à être connues et à durer?
Tout ce que vous avez dit. C'est sûr, c'est évident. Après, je pense qu'il y a, on a fait une conférence il y a pas très longtemps sur les plateformes alternatives. Et effectivement, ça a très très bien fonctionné. Ce qu'on voit, c'est quand même les citoyens, une partie d'entre eux en tout cas, en reviennent. Je pense que le fait que l'Europe en parle, qu'au niveau national, même si c'est pas parlé parfait, on a quand même pas mal de parlementaires qui essayent de prendre à bras le corps le sujet, fait que quand même les citoyens se disent bon ben cette fameuse boîte noire dont je parlais au début, est-ce que j'ai envie ou pas de la cautionner? Je pense, et bravo à eux, que quelque part dans ce milieu des plateformes où il y a plein de métiers différents, le métier des livreurs à vélo est aussi quelque part finalement un peu le métier plaidoyer, quoi. C'est-à-dire que quand les consommateurs réceptionnent à la maison un livreur dans des conditions pas possibles, je pense que petit à petit, ils comprennent ce qui s'y joue. Voilà. Et ça, moi, ça me semble important. Je pense qu'il y a, mais ça va prendre du temps, entre les plateformes alternatives qui se développent et puis les citoyens qui sont de plus en plus conscientisés sur qu'est-ce qui se passe concrètement derrière cette boîte noire, fait que je ne sais pas si ce modèle va vaciller, mais en tout cas, je pense qu'il y aura, il y aura les deux, des changements de pratique à la fois du côté des citoyens, mais je pense aussi que ces plateformes vont de plus en plus chercher à respecter les normes, en tout cas si elles veulent rester sur le terrain, et puis à être vertueuses. Ce qui fait que, quelque part, elles se sont implantées dans nos esprits avant même qu'on puisse se dire est-ce que c'est éthique ou ça ne l'est pas. J'en reviens à leur modèle qui est quand même très efficace, mais qui marchait déjà avant. Avant que ce soit sur le sujet des plateformes, c'est la capacité à inonder le marché tout de suite, très vite, avec des offres très séduisantes, avec beaucoup de services. C'est de faciliter la vie des gens. Voilà. En tout cas, en apparence, la vie des consommateurs est totalement facilitée. Le fait que ça crée d'autres impacts sur les voisins, sur les livreurs, sur les... on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Quand on regarde les communications de ces plateformes, je me souviens de certaines plateformes et leurs premières communications, c'est hyper séduisant. Hein. On a le sentiment qu'il n'y a plus rien à faire. Elles vont limite venir gérer le frigo, les tiroirs, les machins. Il n'y a plus grand-chose à faire. Pour des gens qui sont de plus en plus pressés, qui n'ont pas beaucoup de temps, il y a quelque chose qui est hyper séduisant. Voilà. Au début. Et petit à petit... Ben, on se rend compte que les citoyens... et c'est ça qui est compliqué, c'est que... Je pense que ça, les grosses plateformes l'ont bien identifié. C'est que, certes, il y a tout un tas de consommateurs qui ont envie de changer, qui aimeraient être sur des plateformes plus vertueuses, voilà, mais qui ne trouvent pas forcément les alternatives. Et ça, je pense que c'est très, très important. C'est que je pense que ce qui va faire que les plateformes alternatives vont se développer, c'est la prise de conscience de tous ces citoyens qui, aujourd'hui, n'osent pas ou ne peuvent pas changer leur pratique autour de ces plateformes-là parce qu'il n'y a pas les alternatives. Et ça, c'est tout l'enjeu. Encore une fois, c'est une question de moyens et ça va prendre du temps. Et je pense que les citoyens, de plus en plus, vont être prêts à payer un peu plus cher ou à financer sous forme de crowdfunding, en tout cas à soutenir le développement d'initiatives alternatives pour que petit à petit, leurs usages des plateformes et du numérique reste de qualité, répondre à leurs différents enjeux, mais de manière beaucoup plus éthique, quoi.
Donc pour ces plateformes, enfin, j'ai en tête une plateforme qui aide les professions médicales, on va dire, hein, et qui a été victime d'un virus, enfin pas d'un virus, mais d'un détournement de fichiers, etc. On peut dire aussi que l'État français, la plupart de ses administrations, sont piratés régulièrement, etc. Est-ce que la sécurité est un enjeu et aussi, surtout, une clé, peut-être, si elle est réelle, de séduction pour le public?
C'est un enjeu, c'est certain. Ça, c'est sûr. Après, quand on dit le public, il n'y a pas un public, il y a plein de publics différents, hein, et tout le monde ne recherche pas forcément la même chose. Il y a des publics qui seront rassurés le jour où on leur dira que leurs données ne seront pas utilisées à des fins commerciales. Il y a d'autres publics qui, effectivement, vont utiliser leur carte bleue en ligne que à condition qu'elles soient certaines que leur identité ou leurs données ne seront pas utilisées à des fins, en tout cas contre ces personnes, ça c'est sûr. Est-ce que ça rassure? Est-ce que c'est un enjeu? Oui. Moi, là où je vois la difficulté, et encore une fois, effectivement, c'est un sujet, et ça je pense que c'est important, c'est un sujet qui est pris en charge, en tout cas qui commence à être pris en charge de plus en plus par les autorités publiques, notamment par l'État français, mais c'est aussi des enjeux européens. Je pense que ça dépasse, c'est pas des choses qu'il faut traiter qu'en local, quoi. Mm-hmm. Ça dépasse un peu des échelles sur lesquelles on a forcément une maîtrise. Mais là où nous, on voit un énorme enjeu, on en a un peu parlé, mais les plateformes alternatives, pour beaucoup d'entre elles, elles essayent de proposer du service à des professionnels, ok, à du grand public, ok, mais pour une bonne partie d'entre elles, elles essayent, c'est pas elles essayent, c'est leur projet, c'est de porter des services d'utilité sociale. Donc des services de mobilité, des services de santé, des choses sur la solidarité. Et donc bien souvent, ça vient se mettre en contact avec une politique publique. Donc il faut travailler, et c'est tout l'enjeu des plateformes alternatives, il faut travailler avec les pouvoirs publics. Mais les pouvoirs publics qui, comme vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de collectivités, ou en tout cas une partie, ont vécu des cyberattaques, sont quand même très 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 frileuses. Et donc, de se dire, ben, on pourrait se mettre en partenariat avec telle ou telle plateforme, mais ça demanderait de connecter nos services, voilà. Ça, c'est une vraie difficulté. C'est un énorme enjeu. Ça se fait, ça fonctionne, mais ça demande énormément d'énergie de pouvoir rassurer les collectivités sur le fait que les plateformes alternatives ne sont pas plus ouvertes aux risques que les autres et qu'il y a des solutions de protection pour les collectivités et pour les plateformes. Mais c'est un énorme sujet. C'est un énorme sujet.
Au-delà de ce qui existe comme captation de données, il y a aussi la transparence sur, quand vous allez sur un site, qu'est-ce que vous laissez comme information. Par exemple, je suis allé sur le site de France TV Info, et il y a le choix entre la formule passée par France TV Info et la formule directement sur Google, enfin sur YouTube, d'accord ? Donc, sur la plateforme France TV Info, il y a en gros 35 systèmes logiciels de captage d'infos, de données. Et sur Bien la sûr. Plateforme de YouTube, il y en a 25, par exemple. Donc, parfois, on croit que nos données sont moins ouvertes aux sociétés, mais on se rend compte que, même dans un service public qui devrait assurer une plus grande imperméabilité, on va dire, il y a quand même plein de systèmes pour savoir les pages que vous regardez, ce que vous faisiez avant, ce que vous faites après, et voilà. Et donc, moi, par exemple, mon site qui s'appelle ondedechine.fr, il y a zéro, parce que je veux qu'il y ait zéro. Donc, on peut faire des sites avec zéro système pour pomper des données des utilisateurs, même s'ils ne sont pas forcément des données sensibles. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir une éthique proposée, réfléchie avec les consommateurs, en disant voilà ce qu'on peut accepter, voilà ce... au-delà de la législation, puisqu'il y a le RGPD, etc., RGPD, mais il pourrait y avoir aussi une sorte de charte, de convention, de voilà, nous, en tant que structure, on garantit ça, et ce qu'on laisse éventuellement à des sociétés qui vont utiliser vos données, c'est dans tel objectif.
Oui. Ben, je vais répondre pour les plateformes alternatives, parce que je ne suis ni l'Europe, ni l'État, ni actionnaire dans ces plateformes-là. Mais pour les plateformes alternatives, c'est peut-être pas le premier argument, mais c'est pas loin d'être l'un des premiers. Cette pratique éthique de l'usage des données. Il y a une partie d'entre elles, très vite en arrivant sur le site, l'argumentaire va être très clair sur le fait qu'il n'y a aucune donnée qui est utilisée. Il y en a d'autres qui vont avoir un usage des données, je vais revenir, mais c'est très clairement exposé dans telles conditions. Voilà. Je ne connais pas une seule plateforme de l'économie sociale et solidaire qui utilise et revend les données ou qui les utilise à des fins commerciales. Pas du tout. Et ça, je pense que c'est encore une fois quelque chose qu'il faut mettre en avant et dont il faut parler aux consommateurs et aux citoyens. Ces plateformes de l'économie sociale et solidaire vous garantissent que vos données restent les vôtres et ne sont absolument pas utilisés à des fins qui ne vous sont pas déclarées. Juste un point sur la question des données, je pense que c'est très très important. Vous disiez que sur votre site, il n'y avait aucune donnée utilisée. Bon, ça se comprend et c'est très bien. Il y a quand même, et ça je pense que c'est important de l'avoir en tête, une plateforme, je prends une plateforme de mobilité, certes, c'est un outil qui rend un service à un instant T, d'accord ? Mais si on s'y prend bien, c'est aussi de superbes outils d'adaptation. Parce que c'est des outils qui permettent de faire évoluer le service. Si on est sur un outil de covoiturage ou sur un outil... je sais pas, de manière générale, un outil de mobilité. On peut parier que entre les besoins actuels et les besoins d'il y a 15 ans, dans une quinzaine d'années, vont évoluer, c'est certain. Les gens vont se déplacer, les territoires vont évoluer. Ben, la donnée, si on sait l'utiliser correctement et si on est totalement honnête sur la manière dont on l'utilise, ça peut permettre d'adapter le service. Voilà. Je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de données qui essayent de proposer et développer avec leur plateforme des services avec une forte utilité sociale et territoriale et de travailler avec les politiques publiques. Aujourd'hui, les politiques publiques, sur le domaine de la santé, sur le domaine de la mobilité, ont besoin de données, énormément de données. Sur les enjeux de mobilité, je pense aux territoires ruraux, par exemple, les collectivités, les acteurs publics ont énormément de mal à planifier, à projeter, à anticiper l'évolution des besoins en termes de mobilité. Avoir des acteurs de plateforme de l'économie sociale et solidaire qui sont en capacité de dire on vous offre un service à vous et aux différents citoyens de vos territoires et aussi la garantie de faire évoluer ce même service en fonction des besoins. Parce qu'on va être en capacité d'utiliser à bon escient les données que l'on va capter grâce au service, moi ça me semble d'une très forte et d'une très bonne utilité. Mais c'est une énorme différence d'utiliser les données à des fins projectives et d'adaptation du service que d'utiliser des données pour que, à nouveau, ça vienne créer du gain et du chiffre d'affaires. C'est pas du tout le même enjeu.
Voilà. Eh bien, peut-être une conclusion... pour justement, en termes de perspective ou de prospective, comment vous voyez les choses, Joachim Lebrun, dans ces plateformes numériques et la possibilité d'avoir des plateformes citoyennes durables?
Oui, alors, c'est pas évident comme question, mais je suis à peu près convaincu que ça prend du temps, mais que... cette vision de les plateformes, c'est l'Eldorado économique, on va petit à petit revenir, je suis certain. Je suis à peu près convaincu que le fait que des plateformes, c'est des boîtes noires, où on peut tout se permettre, d'avoir des mauvaises conditions de travail, ce genre de choses, petit à petit, ça sera de moins en moins possible, et heureusement. Ça, j'en suis convaincu. Qu'est-ce que ces deux ficelles vont créer comme évolution, ça j'en sais rien, mais je suis à peu près convaincu que ça va évoluer. En ce qui concerne le développement des plateformes alternatives portées par des acteurs de l'économie sociale et solidaire, moi ce que je vois, c'est que la notion de partage, de mutualisation, de sobriété, c'est quelque chose qui fait sens, à la fois pour les porteurs de projets, mais aussi pour les citoyens. Si je vois par exemple la question du logiciel, nous on rencontre beaucoup de porteurs de projets, quand on leur dit qu'est-ce que vous voulez, avoir un projet pertinent qui restera soutenable dans une quinzaine d'années, et dans ce cas-là vous êtes sur un logiciel partagé, ou alors est-ce que vous voulez créer de toutes pièces un logiciel qui petit à petit va être hyper toxique pour vous parce que vous n'arrivez plus à le développer, et on voit bien comment ça prend. Il y a beaucoup de porteurs de projets qui finalement ont envie de rendre service plus que de posséder leur logiciel, plus que d'avoir leur logiciel comme étant une propriété, comme étant l'outil de démarcation. Et donc ça aussi, c'est intéressant en termes d'évolution de posture, d'évolution de pratique. Voilà. Je pense que les choses évoluent, prennent du temps. Peut-être juste un point sur la suite. Je parle encore une fois pour les plateformes alternatives et de l'économie solidaire. Je pense qu'il y a des choses qui vont bouger, à la fois de la part des citoyens, mais aussi du côté des acteurs publics. Je pense que les collectivités locales, tout doucement, sont en train de prendre la température sur le potentiel de ces outils. Quand on est une com d'agglo en rural, il y a plein de problématiques. Il est de plus en plus difficile d'y répondre qu'avec des solutions en physique. Hein. Avoir des solutions de plateforme pour accompagner le lien social, la cohésion sociale, c'est hyper important. Et je vois, moi, un certain nombre de territoires et de collectivités qui commencent à s'ouvrir à ces outils-là. Et je pense que ces collectivités, en tant que représentantes de l'acteur public, vont devenir des superbes partenaires pour le développement de ces plateformes alternatives et vont venir ajouter de la pertinence, de la notoriété, de la diffusion, qui vont du coup ouvrir une nouvelle voie qui est le lien de confiance avec des citoyens, et ça va prendre à partir des territoires. Voilà. Et du coup, on est totalement à contre-courant de ces grosses plateformes qui se développent en changeant d'échelle et en devenant de plus en plus mondiales, on va dire comme ça. Je pense que pour les plateformes alternatives, le développement va se faire grâce à des réalités purement locales.
Est-ce que vous avez eu l'occasion d'interpeller sur ce sujet, peut-être leur faire écouter bientôt cette émission, le CESER, qui est le Conseil économique et social et environnemental régional, puisqu'il réfléchit, il propose aussi à la région notamment des évolutions à partir d'une réflexion et des données que le CESER met en forme pour avoir une logique, une ligne possible de développement. Je pense là sur la biodiversité, par exemple, c'est le sujet qu'ils ont traité hier et j'aurai une émission qui va être diffusée bientôt là-dessus. Mais ça pourrait être aussi cette question des plateformes numériques.
Oui, tout à fait. On a eu la chance sur un autre projet de discuter avec le CESER sur la qualité écologique des territoires. C'était hyper intéressant et c'est vrai qu'il creuse très très bien les sujets. Sur la question des plateformes, non, on n'a pas encore eu cette opportunité, mais ça peut faire partie des perspectives, justement, effectivement.
Bon, je leur enverrai la piste.
C'est gentil.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir, Joachim.
Au revoir.